Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, bienvenue dans le paddock RMC, c'est notre nouveau podcast Formule 1 de la rédaction. Ce sera tous les lundis après chaque Grand Prix pour débriefer les 24 week-ends de course. Ne manquez pas le rendez-vous, abonnez-vous au podcast, partagez-le, envoyez-nous des commentaires. On est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement et sur rmcsport.fr. Le paddock RMC, c'est le podcast fait spécialement pour les dingos de Formule 1. On parlera technique, stratégie dans tous nos débriefs. Et on vous a préparé en avant-première un petit podcast spécial pour présenter cette saison 2024 avant la première manche du championnat du monde à Bahreïn. L'équipe technique du paddock RMC aujourd'hui, la voix, la légende de la F1 sur notre radio, Jean-Luc Roy, Denis Chevrier, ancien ingénieur du team Renault, et Julien Absalon, journaliste de la rédaction RMC Sport. Salut les gars.
Eh ben salut Nico, bonjour à tous.
Salut.
Oui, bonjour à tous.
Jean-Luc, excité par cette reprise de la saison quand même 2024, là, ça va être dingue.
Ah ben, je crois que ce sera difficile de l'être moins, évidemment, puisque les cartes ne sont pas distribuées, même si, bon, on a eu quand même quelques éclaircissements avec déjà les trois jours d'essais préliminaires, justement, à Bahreïn, le lieu même où se déroule le premier Grand Prix, les trois séances d'essais libres, etc. Donc, on voit vers quoi on se dirige. Maintenant, on va pas tricher, on est juste avant les qualifs, donc on attend avec beaucoup d'impatience ces qualifs pour voir vraiment que tout le monde dévoile son jeu. On sait très bien, et Denis ne va pas me démentir, que les équipes peuvent encore masquer un petit peu. On a un petit peu trop de kilos d'essence, on n'a pas tout à fait toute la perf en positionnement moteur. Enfin bref, on peut encore tricher un peu, mais on a quand même une petite idée de qui va bien et malheureusement qui va moins bien.
Et totalement, on va vous faire du coup une grosse carte postale avant cette saison 2024, tous les enjeux autour de ce débat. Max Verstappen peut-il vraiment être inquiété en 2024? Tout le monde lui promet un quatrième titre, mais il y a quelques nuages quand même sur le clan Red Bull. Où en est la concurrence? Qui pour venir chatouiller Mad Max? On vous propose d'entrer tout de suite dans le paddock RMC.
Le paddock RMC.
Jean-Luc, on en a un petit peu parlé dans le sommaire. L'immense favori, bien évidemment, c'est Max Verstappen. Un quatrième titre lui semble promis en 2024. Il n'a jamais été aussi fort après avoir roulé sur la concurrence en 2023. Donc on se demande forcément, Jean-Luc, si on va de nouveau se diriger pour ce championnat du monde vers une purge. Parce que c'est vrai qu'au niveau du suspense, l'an dernier, c'était un petit peu une purge. Ou en tout cas, vers un championnat à sens unique.
Alors, comme je suis un éternel optimiste et je regarde toujours le verre à moitié plein, je te dis non, ça va être passionnant. Bon, maintenant, il faut que j'étaye un petit peu. Bah, déjà, il l'a dit lui-même à la fin de la saison dernière, réaliser ce que Red Bull a réalisé, c'est-à-dire 21 victoires sur 22 Grands Prix. On rappelle qu'il y en a 24 pour la saison 2024, ça tombe bien. Et puis 19 victoires personnellement pour Verstappen, qui a signé également 12 pôles, alors que jusque-là, ce n'était pas un très grand spécialiste de la pôle. Bon, ça veut dire qu'effectivement, il part dans une position de favori, qu'on ne va pas lui dénigrer. Alors, la surprise des essais déjà préliminaires, ça a été qu'on s'attendait à ce que la RB20 soit en fait une évolution de la RB19 qui a tellement dominé. Bien non. Du côté d'Adrian Newey, on a pris des risques, c'est le cas de le dire. Donc dans ce cas-là, il n'y a que sur le terrain qu'on peut le vérifier. Donc écoute, non, je pense qu'il ne va pas se balader comme ça. Ça, c'est une évidence. Je crains que ça ne devienne pas de Pérez, pour être très clair. Mais on a vu les Mercedes parfois sur certaines séances très rapides. Et puis les Ferrari, je rappelle que sur un tour, si on prend les 5 dernières pôles de la saison 2023, il y en a 3 pour Ferrari, pour Charles Leclerc.
Ah oui, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur la concurrence. Juste, Denis, Jean-Luc nous parlait de cette RB20 qui a des innovations techniques différentes. On parle notamment d'un système de refroidissement qui est bien particulier. Ça a l'air quand même d'être une machine de guerre encore, cette monoplace Red Bull.
Oui, je crois que ce qui est surtout remarquable dans cette équipe, c'est que leur propos, et c'est effectivement ce qu'ils ont fait, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on a dominé une année qu'il faut qu'on continue à gratouiller encore de la perfo de cette voiture dominante. Eh bien, il faut qu'on fasse encore autre chose. Il faut qu'on se redonne encore des éléments de domination en faisant ce que les autres n'ont pas encore fait, en trouvant quelque chose qui nous permette de remettre encore un niveau de performance supérieur. Et ça dénote complètement l'état d'esprit de l'équipe technique de cette écurie. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Et ils disent à juste titre, c'est cette année qu'il faut le faire, parce que 2025 sera encore la suite de 2024. Donc on pourra affiner et la pousser complètement l'aboutissement de cette nouvelle voiture, parce qu'en 2026, un nouveau règlement égale deux nouvelles voitures. Donc oui, ils se sont dit, c'est pas parce qu'on est dominant en 2023 qu'il n'y a pas des gens qui vont, en nous copiant, réussir à s'approcher de nous, voire trouver même un truc de mieux que nous, et qu'on se retrouve en situation d'infériorité en 2024. Il faut de nouveau que, comme on fait toujours, quand on est une équipe dominante, eh ben, on invente encore plus, on creuse encore plus, et on se redonne du potentiel de développement pendant la saison.
Alors moi, j'adore l'optimisme de Jean-Luc qui nous vend du suspense à tous les étages. Julien, quand même, Verstappen, bah, c'est l'épouvantail du paddock. On voit, si on est un petit peu lucide, on se demande comment les autres vont faire là. Quand on voit comment la saison s'est déroulée, Jean-Luc en parlait, deux titres mondiaux, 21 victoires en 22 courses, 860 points au classement des constructeurs. Ils n'ont pas tout perdu pendant l'hiver, Red Bull, Julien.
Non, mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est que c'est une combinaison d'un côté, on a Max Verstappen qui reste le patron, qui je pense n'a pas tout perdu, n'a même peut-être rien perdu durant l'intersaison. Et puis en fait, Red Bull, c'est toujours construire une machine de guerre, comme on vient de l'expliquer. Adrian Newey et Pierre Wachet, les deux ingénieurs, les deux magiciens, ils ont encore fait ils sont tellement en confiance que du coup ils ont décidé d'aller sur un nouveau concept. Et on a vu pendant les essais hivernaux de pré-saison que en fait ça marche. Verstappen, il arrive et puis il pilote tranquillement et il dit oui, en fait là je suis content, la voiture répond très bien, alors que c'est une toute nouvelle voiture, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a conduit la saison passée. Donc c'est possible que ce soit intéressant, clairement, parce que c'est vrai que l'année dernière ça l'était pas, mais c'est possible qu'il y ait des batailles, que ce soit en qualification, en piste ou autre. Mais je crains en fait que à la fin on voit à chaque fois victoire Verstappen, victoire Verstappen, victoire Verstappen. Peut-être pas l'épaule, mais à la fin ce sera Red Bull qui dominera. Pourquoi ? Parce que tout simplement la voiture est magnifique, que apparemment la dégradation des pneus c'est quelque chose d'incroyable, presque du jamais vu.
Parce que moi, ce qui m'inquiète, mon Jean-Luc, quand même, c'est que quand Verstappen dit sur les essais de pré-saison, la voiture est top, franchement, je m'y sens parfaitement bien. Bon, quand t'es la concurrence, tu te dis mince, aïe.
Alors, je suis évidemment d'accord avec vous. C'est pas pour, j'allais dire, maintenir un suspense qui n'existerait pas. Mais ce que ne sait pas Verstappen et ce que ne sait pas Red Bull, c'est le niveau d'évolution des autres. Et vous le savez pertinemment comme moi, on va apporter de nouvelles pièces, on va se diriger. Regardez ce qui s'est passé l'an dernier. On avait Aston très performant début de saison, qui n'a pas su évoluer malheureusement pour eux en cours de saison. Et on avait McLaren qui était nulle part la première moitié et qui est apparu parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc ça veut dire que là, on vient de leur dire, et puis on a la confirmation, les Ferrari vont très vite sur un tour, ça c'est sûr. C'était un peu le cas l'an dernier. Est-ce qu'elles vont être capables de garder des pneus ? C'est ça la vraie question. Mais la perf est là, donc ça maintient le suspense. Hein. Puis ils ont le droit également de travailler sur cette nouvelle monoplace aussi. Parce que, autant le dire tout de suite, tout le monde a recréé une monoplace. Enfin, personne s'est endormi en disant « on est en 2024 et on attend 2026 ». C'est pas comme ça que ça marche, la Formule 1. Hein. Donc, on a déjà beaucoup travaillé. Maintenant, il y a des concepts qui sont manifestement dans le coup dès le début. Et puis, on en parlera plus tard. D'autres qui sont malheureusement complètement en dehors du coup. Ça, on l'a compris aussi. Bon, ça veut dire que Mercedes également, Hamilton avec son immense expérience et Russell, on dit elle est nettement meilleure que celle de l'an dernier qui était à la ramasse comme celle de l'année d'avant. Donc si tu veux, on parle toujours des trois mêmes, hein, mais auxquels on va adjoindre McLaren encore une fois, parce que c'est plutôt quatre maintenant, ça nous fait du suspense quand même dans un chien pis comme tu l'évoquais. Et il va y avoir des circuits extrêmement variés, donc on peut aller très vite à Bahreïn où le revêtement est très abrasif, etc. Il y a du vent, c'est très important. Il peut y avoir du sable en début de séance, enfin bon, et après on va passer à autre chose.
Je vous propose d'écouter Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, sur cette concurrence avec Red Bull pour cette année 2024. Écoutez-le.
C'est sûr qu'ils partent sur le papier, je dirais, avec un avantage qui est important, parce qu'ils ont archi-dominé l'année dernière, qu'on a la même réglementation technique pour 2024 que 2023. Donc, sauf s'ils font des erreurs, il n'y a pas de raison qu'on les atomistes cette année. Hein. Donc voilà, maintenant des erreurs, tout le monde en fait. Ce qui a été clair aussi, c'est qu'on avait bien rattrapé le train des Red Bull en fin d'année. On fait 5 pôles sur les 7-8 dernières courses. On est capable de se battre avec eux sur 3-4 events. Là. Donc voilà, je pense qu'en fin d'année dernière, on avait quand même remis un peu le pied à l'étrier. Si cette année, on a fait du bon travail et tout, on envisage d'être et on espère être un peu plus proche de la Red Bull. Et il n'y a qu'en les mettant sous pression qu'ils commenceront à faire des erreurs. Donc il faut pas partir battu, jamais. Et puis quand je vois le chemin qu'on a parcouru l'année dernière entre les 2-3 premières courses où on prenait 7-8 dixièmes au tour et la fin de l'année où on était capable de faire quelques pôles, je me dis qu'il y a, même si Bahreïn et Jeddah ne sont pas en notre faveur, le chemin et le championnat sont longs et qu'il faudra garder la même approche, la même détermination que celle dont on a fait preuve l'année dernière.
Voilà Frédéric Vasseur, interview exclusive hein, d'ailleurs RMC Sport que vous pouvez retrouver dans Bartoli Time dimanche à partir de 19h ou en podcast. Il le dit, alors t'as raison Jean-Luc, hein, il le dit Frédéric Vasseur, hey. Bon on se rapproche hey. De Red Bull, oui, mais il dit aussi quand même s'ils font pas d'erreur, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas devant, t'es d'accord avec moi?
Oui, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas devant, mais effectivement, tout est dans le mot « erreur ». Et puis je te dis, encore une fois, ce qu'ignore même Red Bull et ce qu'ignore Fred, chacun connaît son équipe mais pas celle des autres, c'est la marge de progression des autres. Et on a bien compris, et ça je m'évertue modestement à le dire depuis la bonne vingtaine d'années que j'ai le plaisir d'être sur cette antenne, c'est qu'il y a, et Denis ne me démentira pas, il y a des secondes dans les pneus. Donc l'exploitation des pneumatiques en et course, oui. C'est la clé. Donc si tu veux, après on peut parler aéro, on peut parler tout ce qu'on veut, on peut parler équilibre, on peut parler réglage, mais si on est capable de tenir ses pneus et de les exploiter, ben on a vu, c'est ça qui te donne le confort. Donc quand on parle de confort, c'est confort de stratégie, puis parce qu'on est loin devant. Mais quand on est poussé, comme l'évoquait Fred à l'instant, qui connaît la course mieux que personne, si on peut pousser Red Bull un peu dans ses derniers retranchements, ben les stratégies, comme tout le monde, va falloir se jeter à l'eau parce qu'on n'aura pas de matelas. Donc c'est ça l'intérêt, si tu veux, c'est l'exploitation des pneumatiques, et là aussi, peut-être à Bahreïn, ça va être quelque chose de particulier. Peut-être à Jeddah, dans une semaine, ce sera différent, pour ne pas parler plus tard de l'Australie ou de Suzuka.
Alors, on va aussi revenir, quand même, les gars, sur un peu les zones d'ombre qu'il y a autour de Red Bull. Et il y en a une qui est assez folle depuis maintenant plusieurs semaines. C'est ce qu'on appelle l'affaire Christian Horner, maintenant. Hein, ça y est, on peut la nommer comme ça. Je vous rappelle qu'il a été accusé de comportement inapproprié par une de ses assistantes. Il y a eu une enquête interne au sein de Red Bull qui a duré plus de 8 semaines. Enquête dont il est ressorti blanchi il y a quelques jours. Et puis, hier, scène assez folle dans le paddock, puisque un email a été envoyé à des patrons d'écurie, à des médias qui suivent la Formule 1, à des grands dirigeants aussi de la FIA, avec plein d'informations qui mettaient en doute les résultats de cette enquête interne et qui accable Christian Horner. Toutes les caméras, tous les regards étaient braqués sur le boss de chez Red Bull. Denis, toi qui as fait partie d'une équipe technique comme ça, quand c'est aussi gros quand même ce qui se passe en interne, est-ce que ça peut affaiblir la machine Red Bull, là, cette affaire Horner?
Honnêtement, moi, à titre personnel, ça m'aurait pas empêché de travailler. Je crois que là, on est typiquement dans l'attaque de niveau qu'à niveau, hein, clairement. Et le fait qu'il y ait peut-être eu quelque chose, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Horner a peut-être, c'est peut-être vu tout beau, tout inaccessible,
intouchable,
et a peut-être fait une petite erreur. Et dans ce monde-là, où chacun cherche à nuire à l'autre, parce qu'à un moment, entre directeurs d'écurie, quand tous les coups sont permis. Et je pense que là, on en a un qui peut être particulièrement violent dans le monde d'aujourd'hui, c'est celui en dessous de la ceinture. Et c'est aujourd'hui, à ce niveau-là, que ça se situe, et qu'il y a des enquêtes, qui sont externalisées pour que tout soit clair, machin. Il y a un résultat, et puis après, on voit ressortir encore d'autres éléments. On est dans un feuilleton. Et on compte sur le fait que la Formule 1 appartenant à des Américains qui, eux, veulent et aiment bien aussi laver plus blanc que blanc, que les autres patrons d'écurie disent que oui, mais attention, c'est même l'honneur de la Formule 1 qui est en cause, etc. Ce sont quand même des propos qui, d'un point de vue sportif, technique, de l'homme que je suis, on n'en a rien à faire quelque part. Et c'est pas ça qui va empêcher l'écurie Red Bull de s'ingénier à trouver le bon réglage et de s'ingénier à tirer le mieux de sa voiture en mettant à la disposition de ses pilotes, dont l'un est effectivement exceptionnel, la voiture qui va lui permettre d'aller le plus vite.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord avec toi, Denis. Qui fait aller vite la voiture.
Bien sûr, bien sûr.
Que ce soit bien clair.
Mais c'est ton symbole. Il y a Verstappen et il y a Horner. Et on le voit même dans tout ce qui fait la Formule 1 ces derniers temps et qui cartonne, dont la fameuse série Netflix Drive to Survive, que Horner, c'est devenu un personnage à lui tout seul. Et Julien, ce qui s'est passé là dans le paddock ces deux, trois derniers jours, notamment la scène d'hier, où lors de la deuxième séance d'essai libre, alors qu'il y a les voitures qui continuent de rouler, il y a ces mails qui tombent. Mails dont on ne connaît pas vraiment la véracité
l'origine,
des informations.
Hein,
l'origine des
sûr.
Informations. C'est important de préciser aussi.
C'est le problème, hein, d'ailleurs.
Voilà, c'est le gros voilà. problème du truc. Mais malgré tout, c'est quand même un symbole qui est en train de s'effriter, Christian Horner. Et pour commencer la saison en toute sérénité, c'est pas top.
Le problème, c'est que, en fait, justement, ce mail anonyme où on sait pas trop ce qu'il y a dedans, si c'est authentique ou pas, c'est, on voit ça secoue le paddock, les journalistes, les directeurs d'écurie. Et en fait, pourquoi ? Parce que, effectivement, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi est accusé Horner. On sait que c'est comportement inapproprié, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste. Est-ce que ça va du harcèlement ? Est-ce que c'est juste quelques mots déplacés ? Bon. Et le problème, c'est que si, par exemple, c'est du harcèlement, bah, forcément, ça rejaillit sur absolument toute la F1, parce que la F1 essaye quand même de se donner une image inclusive, qui pousse un peu au niveau de la diversité, puis même qui essaye de se rajeunir. Donc, c'est aussi tout simplement dans l'air du temps. Et puis, en fait, il y a des procédures, etc. Bon, mais le problème, c'est que là, en fait, c'est plus juste Red Bull qui serait concerné. Mais voilà, parce que, en fait, Red Bull n'a pas fait un travail de transparence, comme a dit Toto Wolff et Zak Brown, eh bien, on se retrouve dans cette situation où on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas trop s'il faut se dire « bon, bah, faut se concentrer sur le sportif », alors que peut-être qu'il y a un problème de harcèlement ou pas. C'est très compliqué, c'est tout ça parce que, en fait, Red Bull n'a pas fait une transparence totale. Et c'est juste ce que réclament en fait, les gens dans le paddock, le public...
Mais est-ce que c'est téléguidé ? Est-ce que cette sortie, elle est téléguidée, Jean-Luc ? Alors toi, je sais, bah, Denis l'a dit, hein, pour lui, c'est clairement une attaque. C'est des attaques qui viennent d'autres écuries, de concurrents pour déstabiliser Red Bull. Mais on a la sensation, ça tombe juste avant la reprise de la saison quand même, que tout ça... Ça se goupille plutôt bien pour les concurrents de Red Bull, quoi.
Exactement, Nico. Tu sais, il y a une vieille formule qui est toujours valable. Chercher à qui le crime profite. Donc, en l'occurrence... À qui peut profiter cette manœuvre de déstabilisation de la meilleure écurie du plateau ? Eh bien, évidemment, aux écuries concurrentes. Et ça survient au bon moment, c'est-à-dire juste avant le début de la saison, etc. Je ne sais pas de quand qu'on porte, puis ça, je suis comme Denis, ça ne m'intéresse pas, sincèrement. S'il a eu un comportement réellement de harcèlement, etc., bah bien sûr qu'il faut le punir. Enfin, il n'est pas question de couvrir tout ça. Mais là aussi, comme évoqué aussi, ça lave plus blanc. Il faut arrêter, parce que les 1200 ou 1500 personnes qui se baladent sur la Formule 1, ils sont tous absolument parfaits en termes de comportement sur toute l'année. Non, il faut arrêter. Il y a un moment, ça devient grotesque. Alors là, évidemment, c'est Christian Horner qui n'est pas non plus, et moi je me mouille un peu, un personnage très sympathique, soyons clairs, qui est en plus un menteur professionnel. Il te dit une chose et le contraire se produit après. Je l'ai dit plein de fois. Il affirme quelque chose et il se produit exactement l'inverse. Donc ces gens-là, on ne peut pas les croire. Donc dans une affaire comme celle-là, on ne peut pas le croire non plus. Maintenant, entendre Toto Wolff, il a toujours été absolument parfait, Toto Wolff, il a toujours eu un comportement nickel depuis 40 ans, c'est le cas également de Zak Brown. Non mais ça me fait rigoler, puis je te dis, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le sport, la technique, les résultats, parce que là on est tombé dans le fond du caniveau. Voilà, ouais. Ben, la Formule 1 se vautre aussi là-dedans, et la série... que vous évoquez tous, évidemment, Netflix a permis, et c'est formidable, à tout un tas de personnes d'accéder à la Formule 1, et notamment les plus jeunes. Mais ça, c'est un feuilleton, c'est une sitcom, c'est un truc qui est écrit, on écrit des rôles pour les personnages.
On n'est plus là, dans le sport.
Eh ben non, on est plus... Faut faire venir, allez, je me mouille, il faut faire venir Gérard Miller, et là, on va avoir peut-être à raconter. Allez, j'ai dit.
Donc, en gros, juste pour clore un petit peu ce chapitre à faire à Horner, mais ça ne va pas les déstabiliser niveau sportif. pensez pas.
Moi, j'y crois pas en tout cas.
Je crois pas non plus, non.
Non, non, juste par contre, voilà, au niveau de l'image, voilà, est-ce que peut-être il y aura des réactions du public sur certains circuits, je ne sais pas. Est-ce que... Ouais. Je ne pense pas, mais juste, voilà, c'est pour l'image de Red Bull, mais quelque part, ça, presque, ça leur importe qu'eux. Après, là, peut-être que les dirigeants de la F1, eux, sont pas contents et vont peut-être mettre leur nez dedans. Et...
Oui, mais tu sais, Julien, le problème, c'est que si on commence à jouer là-dessus, bah, je te dis, tu vas en voir sortir d'autres, hein, des histoires comme ça. Parce que quand on utilise ce genre de moyens, encore une fois, bah, là aussi, ah bah, on mail, on ne sait pas d'où il vient. Un mail, on peut toujours, je pense, en retracer l'origine, a priori, je crois savoir quand même.
Ça
on peut... Bon, ça dépend, ok. On peut savoir à peu près d'où ça vient. Mais en tout cas, bon, maintenant, ça y est, l'affaire est close. Ça a été jugé comme ça, sauf si elle porte plainte, la personne concernée,
qu'elle fait appel,
et qu'elle le traîne. Qu'elle fait appel, bien sûr, elle en a le droit. Elle le traîne en justice, il est condamné. Moi, je ne suis pas là pour dire, bah non, mais évidemment, évidemment, on lave plus blanc. Surtout que, regarde, on a prêté des propos à Bernie Ecclestone, même, qui aurait dit à Horner, démissionne, moi, c'est ce que je te conseille. Et ouais. Bernie a désavoué. Donc, tout le monde raconte n'importe quoi, là. Dans une histoire comme celle-là, c'est parole contre parole. Donc,
eh oui, mais tu sais, Jean-Luc, les gossips, on adore un
mais
peu
je
dans
sais.
Le milieu de la F1, maintenant.
Oui,
ouais. On adore ça.
Fait parler. Tu sais, Bernie, pareil, je vais le citer, disait ça, qu'on parle en bien ou en mal de leur Formule 1, mais qu'on en parle. Voilà.
Oui, c'est vrai. Bon, on va se plonger dans le sportif quand même. En parlant de la concurrence, on a un petit peu évoqué les différentes forces qui vont s'opposer à la Red Bull de Verstappen et à celle de Sergio Pérez d'ailleurs, hein, qui a été confirmée par Red Bull. Après, on va voir si Red Bull donne sa chance un peu à Pérez cette année de pouvoir aller se bagarrer pour le titre. Mais il y a bien évidemment Ferrari. On entendait Frédéric Vasseur tout à l'heure avec une équipe qui se restructure. Jean-Luc, est-ce que tu sens Ferrari cette année capable de venir chatouiller Red Bull? On sait que Charles Leclerc et Carlos Sainz sont déjà satisfaits du comportement de leur monoplace, que la SF24 n'a rien à voir avec celle avec la voiture de l'année dernière, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, donc on est plutôt optimiste pour Ferrari.
Ah oui, complètement. Non, mais sincèrement, la perf, elle était là, hein, en fin de saison, comme on l'a dit. Faut jamais oublier que Fred Vasseur, et c'est pas non plus, il va le dire le premier, c'est pas un magicien, mais il est arrivé il y a un an, le 8 janvier, donc 2023. Bon, il pouvait pas faire grand-chose sur le début de saison. Il a recruté des gens, comme tu le sais, en Formule 1, on les envoie jardiner d'abord pendant quelques mois, donc des gens qui n'apparaissent pas. Et puis, tu sais, Fred, c'est un vrai sportif, c'est un vrai technicien, c'est un type qui connaît la course comme personne, qui a monté son équipe avec les succès que l'on connaît. Il a un parcours absolument nickel, donc il sait ce qu'il fait. Je pense que là, on va voir cette année effectivement une équipe Ferrari sous avec le label Vasseur, je dirais, et on commence encore une fois. La voiture a été rapide en fin de saison dernière. Il n'y a pas de raison, même si elle est nouvelle, qu'elle le soit moins cette année. Donc le problème n'est pas d'aller vite sur un tour, ça ils l'ont prouvé. C'est maintenant d'aller vite longtemps,
c'est
mais
exploitant
les pneus. Voilà.
Ouais, c'est ça, Denis. Hein, c'est ce qui faisait le gros défaut de la Ferrari l'an dernier, cette gestion des gommes.
Oui, c'est ce qui faisait la difficulté. Et je crois que Vasseur l'a très bien dit, ce qui n'est pas une surprise, c'est que quand on se rapproche de celui qui est dominant, on a des chances de le faire trébucher, de le faire douter, de lui faire une erreur. L'année dernière, c'était facile pour Verstappen. Il avait le coude à la portière et il gagnait des courses, il enfilait les Grands Prix les uns derrière les autres. Donc il s'était mis dans une situation psychologique d'imbattable. Si au début de saison il rencontre des difficultés, eh bien pour lui aussi ça va être difficile, parce que il va se rendre compte, il va peut-être faire des mini erreurs, des choses comme ça qui vont faire que, eh bien, le je rentre quand je veux quasiment et je ressors et je joue au chat et à la souris sur les derniers tours de course avec mon adversaire, eh bien, peut-être que ce sera plus possible. Donc, comme toujours, on se rappelle tous de la démonstration de Vettel dans cette écurie Red Bull qui a été dominante comme l'a été Verstappen, un Vettel qui a empilé les titres de champion du monde pour arriver à un total de 4. Et quand il a changé d'écurie, qu'il a changé de voiture, eh ben on a vu que Vettel, ce n'était pas quelqu'un d'infaillible, c'était quelqu'un qui pouvait faire des erreurs, etc. etc. Donc, plus on va mettre la pression sur cette écurie Red Bull, plus on pourra la mettre en difficulté et l'empêcher de gagner des courses. Et c'est ce que Ferrari va s'ingénier à faire, et Vasseur l'a parfaitement expliqué, et c'est ce qu'un McLaren, un Mercedes, des gens comme ça, ils n'ont de cesse que ça. Donc, il faut réussir à faire craquer un petit peu cette coquille d'imbattable. Et c'est ce à quoi ils vont s'ingénier. Et la première course va être l'occasion pour eux d'essayer de le faire, de commencer à le faire. Et dire un Verstappen qui fait le fanfaron, ah ouais, je me sens bien, c'est une super voiture, machin, etc. S'il se retrouve à la première course à ne pas pouvoir éclabousser le Grand Prix de sa domination, eh ben ça va l'embêter. Donc, ça va être très intéressant. On se rappelle quand même tous, moi je me rappelle, j'étais choqué de quasiment l'unique Grand Prix où Verstappen a eu des difficultés avec ses freins ou ses choses comme ça. C'est tout juste s'il n'insultait pas son ingénieur de course parce qu'il avait un petit problème avec ses freins.
Bon, ah, il peut être un peu sanguin, Max, c'est vrai.
Eh bien oui, mais donc s'il est sanguin dans ses propos, il peut aussi l'être dans sa perte de contrôle absolu dont on a besoin quand on veut gagner un Grand Prix. Donc, ouais, c'est ça qu'il faut que les autres essayent de faire.
Et est-ce que Julien, Mercedes, est capable aussi de venir faire un petit peu la, craquer la coquille Red Bull ?
Mercedes, c'est compliqué parce que, en fait, il y a un point d'interrogation. Pendant les essais de pré-saison, bon, ils n'ont pas spécialement fait sensation. Mais bon, on a vu quand même qu'ils sont venus avec une toute nouvelle voiture, qu'ils ont enfin mis de côté leurs aventures bizarres où il y avait peut-être une part d'ego de Toto Wolff et des ingénieurs qui voulaient absolument continuer sur un concept bien spécifique. Et puis bon, là, ils ont une nouvelle voiture. Alors bon, ça, au moins tout fonctionne. Il y a pas de, pour l'instant, il y a pas de problème. Et puis il se trouve que en fait, là, les premiers tours pour les essais libres du Grand Prix de Bahreïn, là, eh bien, en fait, la voiture est rapide. Enfin, est capable d'être rapide. George Russell et Lewis Hamilton semblent bien dedans.
Hamilton, meilleur chrono de la deuxième séance.
Voilà, hein, exactement. Ouais. Surtout, ils ont trouvé une petite astuce au niveau de l'aileron avant qui fait que ça leur permet d'avoir encore plus d'air au niveau des pontons pour refroidir et aussi pour gagner en vitesse. Donc, il y a du travail, il y a de la réflexion. Et puis, de toute façon, le truc aussi, c'est que Lewis Hamilton veut sortir par la grande porte. Alors, il sera pas champion, enfin a priori, vu que voilà, on dit que Verstappen, voilà. Mais quand même, il peut pas se permettre de finir derrière George Russell.
Mais ça, c'est vrai qu'on voulait en parler, Jean-Luc, parce que il y a quand même dans cette saison 2024 l'ombre du transfert du siècle, Hamilton chez Ferrari. Oui. Et du coup, on va voir comment se comporte Hamilton avec son coéquipier chez Mercedes. Et pareil pour Charles Leclerc avec Sainz chez Ferrari. Hein. Ça va être un véritable enjeu, ça, de cette saison.
Absolument. Bah, si tu veux, c'était une telle bombe, parce que j'ai reconnu tout de suite, moi, évidemment, personne ne s'y attendait. Même pas Charles Leclerc, qui venait de signer un contrat, on va dire, de premier pilote chez Ferrari, puisque un contrat très longue durée, lire 2028 ou 2029, même si Fred ne veut pas le dire, mais c'est le cas, avec un accroissement de salaire considérable. Enfin bon, c'était lui le taulier, quoi, en un mot comme en mille, et on avait compris que la reconduction du contrat de Sainz, c'était hypothétique, ou en tout cas pour un an ou deux, bon bref. Donc c'était Leclerc, clairement, qui était privilégié. Et là, paf, on lui met dans les pattes, il n'y a pas d'autre mot, à l'horizon 2025, un septuple champion du monde, qu'il sera peut-être 8 fois d'ailleurs, on ne sait jamais. Donc on lui met une bombe absolue, avec toute l'aura évidemment de ce transfert auquel personne ne s'attendait. Alors, pour l'expliquer, on va pas rentrer là-dedans, enfin tu me diras, l'intérêt du podcast c'est qu'on peut y aller, mais bon, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette pilotage, la facette argent quoi qu'il en dise, et puis la facette ambassadeur à vie, parce que Hamilton voulait être ambassadeur à vie de Mercedes. On a bien compris que ok, c'était, ça se discutait à vie, peut-être pas, mais pour un certain temps. Et je pense que comme ça s'est négocié avec Fred Vasseur bien sûr, mais au plus haut niveau avec John Elkann, le patron du groupe, je pense qu'il a obtenu des conditions absolument faramineuses que l'on apprendra peut-être un peu plus tard. Donc voilà, en plus, bon, le rêve d'aller chez Ferrari, comme l'a dit Fernando Alonso, par parenthèse tout à l'heure, il faut toujours, Fernando, il a beaucoup d'humour, il maîtrise le truc, hein. Il a dit, ah ben moi je savais pas qu'il avait envie d'aller chez Ferrari, je l'ai jamais entendu dire ça. Bon, ça c'est plutôt pour rigoler. Maintenant, c'est vrai que tout pilote a envie d'aller chez Ferrari. Bon bref, on en revient à Mercedes. Je pense que le duel entre les deux, si, et c'est le poil à gratter, ça me fait plaisir. Est-ce que Russell avait vraiment la même voiture qu'Hamilton jusque-là? Ah, est-ce que cette année il va avoir la même voiture qu'Hamilton? Et est-ce que Hamilton va être autant privilégié qu'il l'a été dans le passé? Bah, c'est ce que nous allons savoir, mesdames, messieurs. On a 24 manches pour se régaler. Donc on va voir. Je rappelle qu'ils sont frités deux fois quand même sur la piste l'an dernier. Et que même Russell a dit à la radio à ce moment-là, mais à quoi il joue, ce con, entre guillemets? Est-ce qu'on est là entre équipiers pour se friter? Bon, donc cette année, je peux dire que ça va être chaud parce que, évidemment, Russell, bah, lui, il sait que c'est la valeur montante. Lui, c'est le pilier. Il espère, évidemment, avoir ce statut de premier pilote. Donc je pense qu'Hamilton, il va peut-être tomber sur un os aussi, au sein de sa propre équipe.
Qu'est-ce qu'on voit après derrière comme force capable de venir un petit peu jouer les troubles? Le fait McLaren, bien sûr, Julien, qui a très bien terminé la saison. Aston Martin aussi, hein, qui peut être une vraie surprise.
Ouais, je dirais plutôt Aston Martin. Et plus dans Aston Martin, surtout Fernando Alonso, parce que bon, je suis toujours un peu dubitatif sur Lance Stroll. Mais Fernando Alonso, il a toujours cette capacité à tirer le maximum de sa voiture. Bon, si on met de côté l'épisode McLaren, mais il y a un truc. Là, on le voit encore là, dans les essais libres. Il arrive vraiment à être très très rapide, à signer des secteurs violets un peu régulièrement. C'est possible que voilà, Aston Martin, surtout Fernando Alonso, surtout au niveau du, je sais pas, la première moitié de la saison, arrive à parfois glaner quelques podiums, pourquoi pas.
Ouais, ça dépendra des évolutions.
Il l'a fait l'an dernier.
C'est exactement ce qu'il a fait l'an dernier, ouais, c'est ça.
Je dis toujours la première moitié de saison parce qu'après il y a toujours historiquement, Aston Martin galère pour le développement. Donc,
Denis, McLaren, est-ce que tu les sens capables de surfer un petit peu sur leur fin de saison dernière ou ça va être compliqué?
Bah, c'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont montré de très bonnes choses. On n'a pas entendu de remaniement important de l'équipe. Il n'y a pas de raison, quand on fait une fin de saison comme celle qui a été faite l'année dernière, de mettre la cabane sur le chien, comme on dit. Donc, on continue. Il y a de la confiance, il y a des pilotes, il y a le jeune Piastri qui, on sait à quel point ça peut être difficile au début. Là-bas, maintenant, il a pris ses marques, il a montré qu'il allait très vite. Il a montré qu'il va très vite, le petit gaillard. Et je pense qu'ils ont une bonne équipe, tant technique que de pilotes. Et c'est des gens qu'il faut s'attendre à voir sur le podium. Que ce soit d'une façon régulière, que ce soit pour la gagne, etc., on ne sait pas. Mais oui, il n'y a pas de raison que cette équipe ne fasse pas une belle saison et rivalise avec Aston Martin. Le standing de l'écurie Mercedes et de Ferrari, je pense qu'il est quand même un peu supérieur. Donc sur une saison, ce serait logique que ces gens-là se présentent comme les plus sérieux adversaires de Red Bull. Mais voir des victoires McLaren ou Aston Martin avec Fernando Alonso, dont je suis quand même un fervent supporter, oui, c'est pas impossible.
Tu l'as un peu connu. Yeah, à une certaine époque où c'était la marque aux losanges, on va dire ça comme ça.
Et honnêtement, c'est un mec extraordinaire. C'est un mec extraordinaire, honnêtement. Donc, qu'il ait toujours envie et tout, et c'est, il est capable...
Et ce niveau de perf, parce que t'as l'envie et t'as le niveau de performance.
Oui, et elle est là. Et honnêtement, avec la condition physique que se font ces sportifs de haut niveau, ils sont entourés, ils sont machinés, etc., etc. Les voitures d'aujourd'hui, c'est pas non plus des trucs avec lesquels on se bat. Hein. C'est il faut juste que les yeux fonctionnent bien et soient bien liés avec le cerveau et les mains, les pieds. Mais ça a pas besoin de la force physique, elle est pas là. Donc après, c'est l'expérience, le talent.
Pardon de t'interrompre, Denis. Il a dit, Fernando, on a fait un test physique, je pourrais piloter jusqu'à 50 ans.
Il a dit ça. Moi, Jean-Luc, mon petit et mon Norris Piastri, là, c'est quand même un duo de pilotes frisson, je trouve.
Oui.
C'est vraiment le petit duo de pilotes où tu te dis, il peut tout se passer avec eux, c'est bourré de talent. S'ils ont une voiture au niveau, ça peut vraiment, vraiment donner des étincelles.
Oui, puis ils ont les dents qui rayent le parquet, hein, clairement, parce que Norris, on a du mal à s'en persuader, mais il a déjà plus de 100 Grands Prix au compteur, il n'en a pas remporté un. Et en plus, l'an dernier, tu le rappelais tout à l'heure, le petit Piastri, je crois que c'était au Qatar de mémoire, dans une sprint race, il vient lui gagner sous le nez, lui, avec la McLaren. Donc là, c'est dans le bon sens, hein, je peux te dire que les deux, ils sont remontés comme des pendules. Piastri, on a compris que c'était véritablement une pépite absolue, c'est clair, vu ce qu'il a fait dans son année de rookie, avec l'expérience qu'il a, je pense que Norris, il va devoir vraiment sortir tout son grand jeu pour rester devant, sincèrement, parce que je pense que Piastri, c'est, on dit toujours, bon, c'est de la graine de vainqueur de Grand Prix, ça c'est facile à dire, mais peut-être plus, hein, et Norris aussi. Donc effectivement, les deux vont se pousser à fond, peut-être que ça va gâter un petit peu la bonne ambiance entre eux, mais ça fait partie du jeu. Et moi, puis, je trouve ça normal.
Et puis ouais. Pour Norris, mine de rien, il y a absolument tout le paddock qui dit... Mais heureusement que McLaren a prolongé Norris durant l'intersaison, parce que avec le départ de Lewis Hamilton, ouais. C'est tout le monde se dit, mais en fait Norris aurait été parfait pour aller avec George Russell. Sachant qu'il y a déjà et même des convoitises de Red Bull ou autre,
en plus.
Ouais.
De Britons.
Les gars, je voulais terminer ce podcast sur
déjà
une note un petit peu. Ouais, déjà. Ouais, sur une note un peu moins positive pour nos Frenchies, les Alpines qui sont en grosse difficulté, Jean-Luc, hein, depuis le début de saison. Ça se confirme à Bahreïn. Ça va être très compliqué pour Esteban Ocon et Pierre Gasly là, sur les premières manches de la saison.
Eh bien, écoute, ça fait mal au cœur, quoi, soyons clairs. Hein, c'est quand même l'équipe française. Alors que dire ? Ben oui, bon, une saison 2023, moi je dis catastrophique, c'est les mots qui conviennent. Parce que quand on termine quatrième la saison précédente et qu'on a pour ambition de se rapprocher des trois premiers, quand on a même émis de manière, à mon avis stupide, je le dis aussi, en disant « Ah ben, dans 100 Grands Prix, on va se battre pour le titre », c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, en tout cas en Formule 1. On dit pas « On va gagner dans 100 Grands Prix ». On prouve qu'on est rapide et puis après on dit bah, « On devrait y arriver maintenant ». Bon, peu importe, ça c'est de la com et de la très mauvaise com. Là, le problème, c'est que bah, on a quand même décapité, on avait compté. On a 8 à 10 personnes de talent, de qualité, compétences qui sont parties de cette équipe. Donc moi, je ne peux pas imaginer quelle est la même force, quelle est la même vigueur. Et Denis le connaissait anciennement, encore une fois, de l'intérieur. Et puis, on a quand même deux bases, véritablement. On a la base châssis. Et moi, j'ai entendu les bruits, comme tout le monde. Ça, c'est des vrais bruits. Les Britanniques disaient l'an dernier que le manque de performance de l'Alpine ne venait pas du châssis. Donc, vous avez compris, ça vient d'où ? Bah oui, ça vient forcément du moteur. Dans ces cas-là. Donc, Denis l'évoquait tout à l'heure, quand on commence à chicailler comme ça, bref, on a un nouveau concept, c'est ce qui avait été annoncé. Eh bien oui, on peut dire au vu, alors je souhaite de tout cœur qu'il redresse la barre et qu'il y ait des nouvelles pièces et que ceci et que cela, mais même le discours des pilotes, malheureusement, il n'est pas optimiste. Donc je m'inquiète, oui, des performances pour le moment très très modestes des Alpines.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Julien, c'est qu'en plus, quand on entend Gasly et Ocon là, parler de leur voiture, tu te dis que ça va être vraiment difficile.
En fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va. On parle de surpoids de la voiture, effectivement de châssis qui ne va pas, du moteur qui ne va pas, qui de toute façon n'allait pas avant. En fait, là, et puis le discours effectivement des pilotes, c'est de dire « Bon, eh ben, en fait, on ne sera pas au rendez-vous en début de saison ». Et puis, bah, il faudra juste espérer qu'il y ait de nouvelles pièces. Mais le problème, c'est quelles nouvelles pièces, avec quelles ressources ? Est-ce qu'ils ont même identifié le problème prioritaire à traiter ? Sur la piste, déjà, pendant les essais, on a vu Gasly patiner dans tous les sens, être déjà à la limite. Alors que, bah, en fait, c'est les essais, ce n'est pas encore les qualifs. Donc, à la limite, pour être à plus d'une seconde, mais largement, mais très très loin du leader. Donc, c'est pas bon du tout. Et surtout que, en plus, les deux, ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont en fin de contrat. C'est difficile en plus pour eux de se projeter, de se dire que bon, il faut essayer de aussi penser au développement de la voiture cette année, de l'année suivante. Ça sent vraiment pas bon pour Alpine et pour les deux.
Merci beaucoup messieurs, merci les gars pour cette première du Paddock RMC. On vous a fait le portrait de cette saison 2024. Je vous rappelle que le Paddock RMC, ce sera tous les lundis, débrief de chaque Grand Prix avec Jean-Luc, avec toute la Dream Team F1. Vous avez été parfait. On a lancé cette saison sans DRS, hein. Vous vous êtes pas coupé la parole, il n'y a pas eu d'undercut de Jean-Luc sur Denis Chevrier. Donc c'est nickel. Abonnez-vous surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast. Je vous le rappelle, on est disponible sur toutes les plateformes. Et sur rmcsport.fr, et on a hâte de vous retrouver ce lundi pour débriefer le Grand Prix de Bahreïn. Bye bye.
Salut à tous.
Salut.
Le Paddock RMC.